Du psaume 84. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob, tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute, tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Tu as couvert toute sa faute. Le premier mardi de Carême, nous sommes entrés dans le mystère de la miséricorde de Dieu par la porte de la croix. La semaine dernière, nous avons médité ensemble le mystère de l'incarnation de Dieu qui naît en nous pour ne plus jamais être séparé de nous, source inégalée de joie. Je voudrais ce soir m'attarder sur un aspect de la miséricorde qui m'est cher, la discrétion de Dieu qui couvre nos fautes pour ne voir en nous que l'image de son Fils. Tu as couvert toute ma faute. Alors, si vous le voulez bien, commençons par le commencement et commençons par la Genèse, et notamment par les chapitres 1 à 3 de la Genèse. Au premier chapitre de la Genèse, nous apprenons tout d'abord que la création est bonne et que Dieu s'en réjouit. Ensuite, nous apprenons que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Au second chapitre de la Genèse, si nous faisons bien attention, il est fait mention de deux arbres. L'arbre de vie, planté au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que Chouraki traduit par l'arbre de la pénétration du bien et du mal. C'est du fruit de cet arbre qu'Adam et Ève, séduits par le serpent, vont manger. Au chapitre 3 de la Genèse, on apprend que le serpent, qui est accusateur et menteur, n'est qu'une créature. Il n'y a donc pas de dualisme, il n'y a pas d'un côté un Dieu qui serait bon et de l'autre un Dieu qui serait mauvais, qui serait en lutte. Il n'y a pas de dualisme dans la Bible. Il n'y a qu'un Dieu bon qui a fait la création bonne et l'homme à son image, et une créature, le serpent, qui va tordre la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un Dieu en rivalité, un Dieu bon en rivalité avec un Dieu mauvais, nous sommes dans la gnose, nous sommes dans des gnoses qui sont des hérésies chrétiennes des premiers siècles. À la suite de l'apparition du serpent au chapitre 3 de la Genèse, s'ensuit un récit un petit peu confus. Tout d'abord, si vous faites bien attention, vous irez lire ces textes chez vous, le serpent va tordre la parole de Dieu. Il va dire, alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Cette question tordue, mensongère du serpent, entraîne une confusion dans l'esprit d'Ève, qui à son tour va tordre la parole de Dieu. Elle va dire, mais non, ce qu'il a dit, c'est « du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas ». Mais ce n'est pas ce qu'avait dit Dieu. Il avait dit « du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas ». Alors que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Et donc Ève se trompe. Et parce qu'elle se trompe, à son tour, elle va manger avec Adam l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger du fruit de cet arbre, de l'arbre de la pénétration du bien et du mal, je crois que c'est prendre possession du jugement qui n'appartient qu'à Dieu. C'est se mettre en place de juge et décider par soi-même de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, sans se laisser mener par Dieu. Puisque nous sommes à Saint-Ignace, il me semble qu'il faut préciser que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'exact contraire du discernement. Lequel discernement, si j'ai bien compris, consiste à choisir entre deux biens celui qui est bon pour moi, à la lumière de l'esprit. Ce qui est très différent de porter un jugement sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Dans un tout autre domaine, et pour autant qui nous rejoint, Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant assassiné par les nazis en 1945, a écrit une éthique qu'il a laissée inachevée, et à la première page de cette éthique, les premières lignes de la première page, il écrit ceci. Le but de toute réflexion éthique semble être la connaissance du bien et du mal. La première tâche de l'éthique chrétienne consiste à abolir cette connaissance. L'éthique chrétienne voit dans la possibilité de connaître le bien et le mal la chute originelle. La connaissance du bien et du mal est donc le divorce d'avec Dieu. L'homme ne peut connaître le bien et le mal que contre Dieu. Cela peut nous faire réfléchir. Autrement dit, la faute d'Adam et la honte qu'il éprouve au décours de cette mendication du fruit ne sont pas d'abord, comme on a l'habitude de l'entendre dans notre univers occidental, alimenté par saint Augustin, ce n'est peut-être pas d'abord une chute de la chair, mais une chute de l'esprit. Et la grande tradition orientale, par exemple avec saint Basile, va lier la nudité d'Adam à sa quête désespérée des sciences et des techniques pour pénétrer au cœur de ce qu'est l'homme et pour juger par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, une quête désespérée qui le distrait de la contemplation de Dieu. Pour autant, Dieu ne se résout pas à ce détournement de l'homme. Il le cherche, il l'appelle, il le questionne, mais il ne le juge pas. Et quand Adam se rend compte de ses mésaventures, il se découvre finalement pas tellement nu, mais plutôt dénudé. Il éprouve de la honte, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, va sacrifier un animal pour faire une tunique de peau qui viendra revêtir Adam et Ève et couvrir leur honte. Certains midrashes disent que cette tunique de peau a été prise à un agneau et que dès cette heure-là, dès le chapitre 3 de la Genèse, c'est l'agneau pascal sacrifié qui va venir recouvrir Adam et Ève. Et peut-être que cet agneau pascal, c'est déjà le Christ qui d'emblée donne sa vie pour recouvrir la nudité et la honte d'Adam et Ève. Et parce que Dieu recouvre de peau Adam, alors Adam va pouvoir vivre sans craindre le regard d'autrui. D'une certaine manière, après le geste créateur, le second geste de miséricorde de Dieu, après la création bonne, la création de l'homme très bonne, le second geste de miséricorde de Dieu est de couvrir la honte d'Adam pour que Adam puisse vivre. Un peu plus loin dans la Genèse, il y a finalement l'exact contraire de ce qui arrive à Adam. C'est au chapitre 6 à 9 avec Noé. Avec Noé, la création est à nouveau racontée. Le Créateur demande à Noé de préparer une arche pour mettre à l'abri tous les vivants que Dieu veut protéger du déluge. Noé, à son tour, reprend l'histoire d'Adam. Mais une fois sorti de l'arche, Noé n'est pas tout à fait sorti d'affaire et à son tour, comme Adam, il va avoir un problème avec un fruit. Il ne s'agit plus cette fois du fruit de l'arbre, mais du fruit de la vigne, parce que Noé va s'enivrer et se dénuder à l'intérieur de sa tente. Je vous lis le chapitre 9 de la Genèse. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, lui mirent tous deux sur leur épaule, et marchant à reculons, recouvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. À la suite de cette mésaventure, Noé va maudire son fils cadet, Cham. Mais quelle est la faute de ce fils cadet? Quelle est la faute de Cham? Est-ce qu'il aurait dû fermer les yeux ou bien fermer la bouche? Peut-être les deux, tant il est vrai que finalement, si l'on approfondit la notion de secret, fermer les yeux et fermer la bouche est toujours lié. Dans mon exercice professionnel en prison, et peut-être d'autant plus que c'est en prison, je m'intéresse au secret médical. Et il me semble que garder le secret médical, ce n'est pas seulement taire des informations médicales que l'on aurait sur les personnes, mais plus encore, fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. Et c'est pourquoi jamais je ne leur demande pourquoi ils sont incarcérés. S'ils veulent me le dire, ils me le disent. Mais il me semble que ne pas poser cette question-là, fermer les yeux sur cette partie de leur vie, c'est tout à fait partie intégrante du secret médical. Et il se trouve que cette notion de miséricorde qui recouvre, qui ferme les yeux finalement sur la faute, se retrouve dans l'hébreu, dans la lettre même du texte hébreu, puisque la racine du mot qui a donné Kippour, le grand pardon, cette racine K-P-R, signifie recouvrir. La fête du grand pardon, dans la première alliance, c'est véritablement la fête de la miséricorde de Dieu qui recouvre la faute des hommes. L'après-midi de la fête du Kippour, les Juifs lisent le chapitre 18 du livre du Lévitique et toute une litanie sur l'inceste qui commence ainsi. « Aucun de vous ne s'approchera de sa proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis le Seigneur. » Eh bien, cette expression « découvrir la nudité » du mot hébreu « galar » est exact opposé de qui pour recouvrir. Finalement, la faute par excellence, c'est découvrir la nudité de l'autre. Et dans le Lévitique, découvrir la nudité, ça veut explicitement dire violer quelqu'un. Donc finalement, on retrouve le même mot que celui qui était utilisé pour décrire la faute de Cham, qui a découvert la nudité de son père et qui l'a publiée. Si on prend ce même mot, galar, découvrir la nudité, il signifie aussi partir en exil, être déporté, être sans abri. Le livre des Proverbes écrit « Qui dévoile les secrets commet une trahison ». On a donc un double pôle. D'un côté, découvrir la nudité, violer et par extension, déporter quelqu'un, le laisser sans abri. Et de l'autre, couvrir la faute, K-P-R, et finalement redonner un abri, redonner un habitat à la personne que l'on recouvre ainsi. On pourrait ainsi dire que cette tension dialectique se résume de la sorte, le péché par excellence, c'est découvrir la nudité, publier la faute, accuser l'autre, et la miséricorde par excellence, c'est couvrir la nudité et a fortiori couvrir la faute. Fermer les yeux sur la faute de l'autre, fermer la bouche pour ne pas l'accuser. Voilà, je crois, ce qu'est la miséricorde. Fermer les yeux, ne pas succomber à la convoitise dont le nom est le fruit de l'arbre de la pénétration du bien et du mal. Fermer les yeux afin de ne pas juger. Le péché, c'est le contraire des yeux fermés et de la bouche fermée. C'est laisser l'accusateur en nous accuser, c'est dévoiler la nudité, la pauvreté, la misère de l'autre. C'est le contraire de la discrétion et du secret. Alors vous comprendrez bien que ce que je dénonce ici, ce n'est pas la correction fraternelle qui doit se vivre dans le secret. La correction fraternelle, c'est ouvrir la bouche, bien sûr, sur la faute de l'autre, mais dans le secret pour qu'il se convertisse. Alors que ce dont il est question ici, c'est l'accusation publique, la délation publique de la faute qui fait que l'autre est résumé à sa faute. Lors de la célébration du Kippour, que l'on appelle la Kapara, cette célébration fait vivre aux croyants juifs une expérience collective au cours de laquelle la communauté, le jour du grand pardon, confesse publiquement et à voix haute tous les péchés possibles, toutes les fautes possibles, y compris des fautes que les gens présents ce jour-là n'ont jamais commises. Et cette confession se fait devant Dieu pour signifier la solidarité de toute l'humanité dans la faute et que nous avons à supplier Dieu, pas seulement pour nos propres fautes, mais pour les fautes de l'humanité. Et donc il s'agit de supplier Dieu qu'il recouvre l'ensemble des fautes de l'humanité. Et d'une certaine manière, selon toujours l'étymologie, il s'agit de se laisser recouvrir par Dieu, de se rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il recouvre tout ce qui n'est pas lui. C'est l'exact contraire de découvrir la nudité. Et bien toujours dans ce même fil, le fait de penser la miséricorde comme ce qui recouvre la faute se retrouve aussi en théologie chrétienne. Le sacrement de réconciliation tel qu'on le connaît aujourd'hui a été mis en forme en 1215 par le concile de Latran IV. Et Thomas d'Aquin, qui va vivre quelque temps après, va fonder théologiquement la nécessité du secret de la confession dans des termes qui sont identiques à ceux que je viens d'évoquer. Thomas propose cette explication dans le Commentaire des Sentences de Pierre Lombard. Et vous savez qu'il déploie sa théologie sous forme de questions-réponses, donc il pose une question et il tente d'y répondre. Voilà sa question. Un prêtre est-il obligé, dans tous les cas, de cacher ce qu'il a appris sous le secret de la confession? Et Thomas répond, le prêtre doit se conformer à Dieu dont il est le ministre. Or Dieu ne révèle pas les péchés qui sont dévoilés par la confession, mais il les recouvre. Le prêtre non plus ne doit donc pas les révéler. Et vous comprenez bien que c'est bien ce geste de Dieu qui recouvre et en quelque sorte qui lui-même ne s'intéresse pas à la faute de l'homme, puisque ce n'est pas l'homme sa faute. Eh bien, c'est ce geste de Dieu qui recouvre, qui fonde le secret du sacrement de réconciliation. Toujours dans le même sens, mais de façon plus ancienne encore, un texte des Pères du désert raconte une très jolie histoire que l'on pourrait méditer longuement au sujet de cette miséricorde qui recouvre la faute. Il était une fois un moine qui tomba dans la fornication pendant 3 ans. Son maître spirituel, que l'on appelle un igoumène, était dioratique. Il était doué du charisme de la diorasis, qui est, dit-on, chez les pères du désert, la faculté mystique de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, de savoir ce que les autres ne peuvent pas savoir. Et donc, le maître spirituel, normalement, était censé connaître les fautes des moines avec qui il vivait. Mais voilà qu'avec ce petit moine tombé dans la fornication depuis 3 ans, il ne pouvait pas savoir le péché du petit moine. Or, un jour, le maître spirituel eut connaissance du péché du moine. Il l'appela et lui dit « Dis-moi où tu étais cette nuit et pourquoi tu irrites Dieu ?» Le moine tomba à ses pieds et dit « J'ai péché devant Dieu et voici 3 ans de cette action impure dans laquelle j'ai été attrapé. » L'igoumène lui dit « Mais que faisais-tu pour que Dieu me cache les maux dans lesquels tu étais enferré ?» Et le moine dit « C'était ma pratique que chaque nuit où j'allais à l'action impure, je disais en pleurant, à l'aller et au retour, les 8 canons de psaume et les hymnes de pénitence. » Mais cette nuit, le mauvais démon m'a rendu négligent, m'a désespéré et a dit que mes prières étaient inutiles. Je n'ai pas eu du tout le souvenir de Dieu et je n'ai pas psalmodié. Alors le maître spirituel dit « Béni soit la miséricorde de Dieu qui ne veut pas la perte de l'homme. Et maintenant, puisque Dieu ne se souvenait pas des autres actions de ces 3 ans, moi, semblablement, je te pardonne ce qui a trait à cette nuit-là par la miséricorde de Dieu. » Il revint à Dieu et devint un homme parfait par la pénitence et les bonnes œuvres. Et vous voyez combien il est important de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Je vous disais en commençant que c'était un agneau, dit-on, qui avait été sacrifié pour recouvrir Adam. Et que peut-être c'était l'agneau de Dieu qui d'emblée avait donné sa vie pour recouvrir Adam. Eh bien, il me semble que dans l'Évangile, lorsque Jésus, sur la croix, au chapitre 19 de saint Jean, laisse sa tunique pour qu'elle soit tirée au sort, peut-être que cette tunique de luxe, cette tunique de roi, qu'il est laissé là, tirée au sort, est pour nous tous, pour chacun de nous, afin que chacun de nous puisse revêtir le Christ. Ce sera mon second temps ce soir, revêtir le Christ. Dans l'Évangile, Jésus ne pose jamais de questions à ceux qui viennent à lui. Il les prend tels qu'ils sont, où ils en sont. Naître à la miséricorde, vous disais-je, c'est fermer la bouche et fermer les yeux sur les fautes d'autrui, autrement dit, les prendre là où ils sont. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, laisser Dieu fermer les yeux et la bouche sur nos propres manquements, nous laisser recouvrir par lui, laisser Dieu nous revêtir de sa discrétion. À l'heure de la Passion, Jean l'évangéliste insiste sur cette tunique laissée par le Christ à l'heure de sa mort, sans couture, tissée d'une seule pièce, à partir du haut, tirée au sort. Eh bien, je crois que cette tunique est le vêtement ultime qui nous est laissé à tous pour recouvrir en nous et même dissoudre en nous tout ce qui n'est pas Dieu. Faisons un peu de poésie. Je crois que c'est de cette tunique que le Père prodigue va revêtir son Fils retrouvé. Je crois que c'est cela, revêtir le Christ, nous laisser habiller par lui, habiter par lui, pour habiter sa vie. Le laisser nous revêtir de cet amour qui brûle tout ce qui n'est pas Dieu, qui transforme tout. Une histoire étonnante est racontée dans l'Évangile selon saint Marc. Jésus vient d'être arrêté, tout le monde s'enfuit, et nous dit Marc, un jeune homme suivait Jésus, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Marc, chapitre 14, versets 51 et 52. Ce drap, en grec « syndona », est le même mot traduit quelques versets plus loin par « linceul ». Lorsque Joseph d'Arimathie enveloppe Jésus dans un linceul, au chapitre 15 de Marc, verset 46. Donc, première scène de ce diptyque, un jeune homme qui s'enfuit tout nu en laissant un drap qui ressemble à un linceul. Deuxième partie du diptyque à la résurrection, un autre jeune homme est là, désormais assis et vêtu d'une robe blanche. C'est au chapitre 16 du même évangile de Marc, versets 5 et 6. Étant entrés dans le tombeau, les femmes virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. » Je me suis longtemps demandé qui était ce premier jeune homme, celui qui partait nu sans son drap. Et j'aime à croire que c'est chacun de nous, quand nous avons peur, à l'heure de la mort, quand Jésus est arrêté. Eh bien, j'ai envie de croire avec vous ce soir que le second jeune homme, qui qui est dans le tombeau à l'heure de la résurrection. Et c'est très important, ce n'est pas un ange chez Marc, mais un jeune homme. J'ai envie de croire qu'un échange a eu lieu. Si ce jeune homme, c'est nous, nous avons laissé à Jésus le drap, le linceul. Et lui a pris la mort sur lui pour nous en délivrer. Et il nous a laissé en échange sa tunique, sa robe blanche, pour que nous puissions nous en revêtir, cette robe de la victoire, offerte une fois pour toutes à l'heure de sa passion, qui une fois pour toutes nous a revêtus. Revêtir la tunique sans couture de Jésus, c'est revêtir Jésus lui-même, c'est revêtir le Christ qui a vaincu la mort, qui nous a aimés plus fort que la mort. Pour conclure ce soir, je voudrais m'attarder à la date à laquelle a commencé notre année sainte de la miséricorde, qui s'est ouverte le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Le pape, sans doute, a choisi cette date parce que c'était les 50 ans de clôture du Concile Vatican II. Mais peut-être aussi l'a-t-il choisi parce que c'était la fête de l'Immaculée Conception. Cette fête, très sincèrement, m'a longtemps paru une fête étrange. Et puis un jour, j'ai lu l'oraison du 8 décembre et j'ai compris le sens de cette fête. Je vous lis l'oraison du 8 décembre que l'on lit à la messe ce jour-là et dans les heures de l'office. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifiée nous aussi de tout mal. Autrement dit, ce que dit cette oraison, c'est que c'est par la grâce de la croix du Christ que Marie est conçue sans péché. Et du coup, toute la perspective est changée. Ça veut dire que notre avenir, elle nous montre ce qu'est notre avenir. Elle nous montre que par la grâce de la croix du Christ, nous sommes nous aussi appelés à être comme elle, immaculés. Et cela, je ne l'invente pas, puisque finalement, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, dit la même chose que cela. Et c'est d'ailleurs ce texte qu'on lit à la fête de l'Immaculée Conception. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc notre vocation la plus profonde, notre identité la plus profonde est de vivre saint et immaculé devant Dieu dans l'amour. Autrement dit, notre vocation la plus profonde, c'est de retrouver en nous cette image et ressemblance originelle qui n'est jamais perdue. Elle a pu être recouverte, oubliée, que sais-je. Mais elle est en nous, inentamée, inentamable. Rien ne peut l'abîmer. L'image du Fils inscrite en nous est notre identité la plus vivante. Et c'est cela, devenir Christ, être revêtu par le Christ. C'est retrouver en nous la trace originelle, l'empreinte de Dieu, qui est notre identité la plus profonde. Alors, mes frères et mes sœurs, mes amis, ne craignons pas de nous découvrir devant Dieu tel que nous sommes. Ne craignons pas de nous présenter à lui sans faire le tri par nous-mêmes entre ce qui serait bien et ce qui serait mal. Présentons-nous à lui tel que nous sommes. Vous savez, il y a une publicité qui dit « Venez comme vous êtes ». Eh bien voilà, à Dieu, venez comme vous êtes. Parce que, présenté devant lui, dès lors que nous tournerons notre regard vers lui, au moment même où nous le contemplons, nous sommes aimés, hors du péché, revêtus, protégés par la tunique sans couture, qui, elle, n'est jamais déchirée, parce que l'amour de Dieu est indéchirable, parce que l'amour miséricordieux de Dieu ne peut pas être abîmé. Revêtir le Christ, et ce sera ma vraie conclusion, revêtir le Christ, dit Maître Eckhart, c'est en quelque sorte faire de lui notre capuchon. Vous savez, comme les frères dominicains qui ont une sorte de capuche pour se cacher. C'est pour ça que Maître Eckhart prend cette image. C'est faire de lui notre capuchon de sorte que, si le Christ nous recouvre, rien de ce qui nous arrive ne nous touche plus directement sans le toucher lui d'abord. Alors tout passe par lui. Il s'agit en quelque sorte de se laisser envelopper par Dieu, de façon à ce qu'il soit le premier touché par ce qui nous atteint. Je vais vous lire pour conclure un long extrait des entretiens spirituels du chapitre 11 de Maître Eckhart, et je vous invite vraiment à lire ces entretiens spirituels qui sont très faciles à lire, contrairement à d'autres textes de Maître Eckhart. Juste une précision, quand Maître Eckhart parle de l'homme en disant qu'il est sorti de lui-même, ça veut dire qu'il est tourné vers Dieu. Voilà ce passage. L'homme qui serait si complètement sorti de lui-même et de tout ce qui est sien serait en vérité totalement fixé en Dieu. Si on voulait le toucher, il faudrait d'abord toucher Dieu. Car il est absolument en Dieu et Dieu l'enveloppe tout comme mon capuchon entoure ma tête et quiconque voudrait m'attraper devrait d'abord toucher mon vêtement. Si grande que soit une souffrance, du moment qu'elle passe par Dieu, c'est Dieu qui la supporte le premier. En vérité, plus nous sommes nous, moins nous sommes nous. Un homme qui serait sorti de lui-même ne pourrait jamais perdre Dieu ni se sentir séparé de lui, quoi qu'il fasse. S'il arrivait néanmoins à cet homme d'avoir une défaillance ou de pécher en parole ou de commettre une faute quelconque, c'est Dieu, puisque dès le début il a pris part à l'action, qui nécessairement prendrait sur lui le dommage. Quant à toi, garde-toi bien pour autant de laisser ta tâche. Eh bien, la troisième œuvre de miséricorde à laquelle je vous invite à vivre ces jours-ci, c'est cette discrétion. À la fois, cette discrétion qui est une fermeture de la bouche et des yeux pour renoncer à voir le péché de l'autre, et en même temps, cette discrétion au sens du détachement qui va jusqu'à renoncer à s'intéresser à notre propre péché. Je crois qu'il nous faut renoncer à regarder notre péché pour regarder vers le Christ. C'est autrement plus intéressant. Eh bien, revêtir le Christ et pratiquer le détachement envers tout ce qui n'est pas lui, voilà ce que je vous invite à vivre. Et pour conclure, comme tous ces soirs, je vous invite à reprendre ce refrain de Thésée « En tes mains, Père, je remets mon esprit. » In manus tuas pater commendo spiritum meum. In manus tuas pater.